Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Flora Moussy.
Il est 11h05, merci à tous d'être avec nous dans les grandes gueules du sport sur RMC. Bon réveil, bonne route si vous êtes sur les routes des vacances. On est toujours avec Cédric Emmons, Fred Weiss et Jérôme Pinault. C'est la dernière heure, on parlera basket dans quelques instants avec Captain Weiss qui veut sauver le basket français. Et puis on terminera bien sûr sur les jeux du sport. On vous rappelle que tout ce week-end, à l'occasion du Tour de France féminin, Basic Fit, partenaire fitness officiel du Tour de France femme avec Zwift, vous offre un an d'abonnement pour vous entraîner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans plus de 300 clubs en France. Pour remporter cet abonnement Basic Fit, vous envoyez sport, S-P-O-R-T, au 7-32-16. La journée va être longue.
Quel numéro ?
32-16. Mais d'abord, on va ouvrir les portes du vestiaire des GG.
RMC, le vestiaire des GG.
On est en pleine période estivale. Beaucoup de ceux qui nous écoutent aujourd'hui sont en vacances actuellement, mais pas vous ici, en plateau, sur le pont, toujours. Et pourtant, fut un temps, pas si lointain pour certains d'entre vous, vous étiez encore au meilleur de votre forme en train de profiter de vos vacances. Je regarde personne en plateau. Jérôme, je ne pense qu'à toi. Mais alors, justement, un sportif de haut niveau, ça fait quoi en vacances? Est-ce que vous étiez du genre à tout couper pendant plusieurs semaines avant de vous remettre au travail ou au contraire, vous aviez du mal à décrocher? Qu'est-ce qui était le plus dur?
Moi, décrochage total.
C'est vrai?
Mais ça m'étonne tellement pas.
Mais pendant longtemps?
Non, j'avais... Les premiers jours... Alors, ça dépend quand tu à quel moment, si c'était après une finale ou une demi perdue avec le Stade ou après une tournée avec l'équipe de France.
Oui. T'avais plusieurs périodes de vacances, voilà. En fait
Non, c'est-à-dire que quand tu rentres de tournée, t'as un ou deux jours où tu t'as besoin de te remettre dans ta vie de famille parce que tu vis en groupe, tu es régi par des horaires et autres. Donc là, il faut se recaler sur la vie de famille. Et après, j'avais besoin de 7, 8, 10 jours, ça dépend de lâcher prise.
Il fallait déjà avoir des longues vacances pour pouvoir faire ça.
Oui, mais après, au bout de 15 jours, tu reprends à courir, à faire du tennis, autre sport.
Qu'est-ce qu'il y a dans ce lâcher-prise, Cédric ?
Tout. dormir. J'avais besoin de beaucoup dormir. J'avais besoin de faire des bons restaurants, de traîner avec mes amis, de pas penser au sport, de... Ouais, d'être festif, complètement.
Et t'arrivais justement à avoir cette coupure totale avec ton sport?
Mais c'était mon cerveau qui me le demandait.
Ouais.
Moi, j'avais besoin de plus penser à rien, mais d'un lâcher prise, d'évacuer cette pression que tu as toute l'année par des moments conviviaux, festifs, voire même un peu de l'excès. Mais derrière, parce que je savais qu'au bout de 15 jours, je reprenais mes baskets, quoi.
Ouais.
Au bout de 15 jours, tu reprends tes baskets, tu commences à refaire des séances. Et si tu, à ce moment-là, tu lâches pas, moi, j'avais l'habitude d'aller en Corse courir parce que je me mettais plein d'images en tête, des souvenirs pour la saison quand ça va être dur, ou sur des préparations de Coupe du Monde, je partais à l'île de Ré parce que les conditions météo me permettaient, mais j'avais besoin de couper et de reprendre progressivement. Mais sinon, je pétais un plomb. Pétais réellement un plomb. J'avais besoin d'une grosse, grosse coupure. D'ailleurs, c'était, du moins dans mon cas, c'était connu. Hein. C'était très festif. Ouais.
J'avais vraiment... C'était connu.
Bah ouais, parce que je suis un épicurien, parce que j'aime ça. Je me suis un peu toujours freiné tout au long de ma carrière. Mais
c'était pas trop dur, du coup, d'y revenir après. C'est-à-dire qu'au moment où il y a cette reprise qui arrive.
J'avais des prises de poids en plus.
Bah oui, si tu manges énormément.
J'avais un challenge avec Guy Novès, c'était tu reviens, allez, 1 kg maxi en plus.
C'est vrai. Ah, ouais, il t'avait fixé.
Ouais. Sinon, je touchais pas au ballon, je faisais que les tours de piste. J'en avais besoin. Et même, je vais vous le dire, même pendant la saison, j'ai besoin, chaque fois que j'avais des semaines de vacances, de se lâcher prise pour que mentalement être capable de supporter les contraintes dues au sport de haut niveau.
Fred.
Mais moi, je n'aime que les contraintes. Non, je m'épanouis que dans les contraintes. Moi, je fais jamais d'excès. Je sors pas, je ne bois pas d'alcool, je fais pas vraiment la fête. Et en fait, j'ai eu plusieurs périodes dans ma carrière. C'est-à-dire qu'il y a la période où t'es en équipe de France et dans ce cas-là, t'as vraiment très 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 peu de jours de vacances. Un exemple, en 2000, quand on fait le triplé à Limoges, j'ai 5 jours de repos avant de repartir en équipe de France. Donc ça veut dire
pour
que
les jeux.
Pour les Jeux Olympiques. Donc
et
vraiment.
Et après l'équipe de France, t'as pas eu de coupure.
Non, hein, j'ai eu cinq jours juste après, et moi ça m'allait très bien en fait. Cet enchaînement me permettait justement de garder la forme, de pas avoir à moi gérer ces périodes où on s'entraîne pas justement.
Et est-ce que tu penses que t'aurais eu du mal à te gérer seul dans ces périodes-là?
Parce que comme je te disais, ça c'est la première étape de ma carrière, mais dans la deuxième, je suis un peu moins en équipe de France, et donc forcément j'ai plus de temps, et je suis plutôt du genre à dire. Bah, c'est bon, je commence demain l'entraînement.
On verra demain.
Demain ça ira. Allez, et ainsi de suite. Et c'est très difficile de se réguler quand on a été régulé par le timing. Moi, le seul truc que j'exigeais, entre guillemets, c'est de pas avoir de montre, pas avoir d'horaire. Parce que ça, c'est quelque chose qui me rend fou. Je pense que tu t'es bien passé pour le savoir. Je déteste arriver en retard. Je déteste ne pas être à l'heure au rendez-vous, ne pas être à l'heure au travail, etc. C'est vraiment quelque chose qui m'obsède. C'est quasiment un toc. Et c'est vrai que pour moi, déconnecter vraiment, les vraies vacances commencent le jour où j'ai plus d'horaire.
Ça
change énormément pour moi. Parce que, encore une fois, on a un rythme de vie qui nous oblige, c'est-à-dire qu'en gros le matin tu te lèves à telle heure, tu vas t'entraîner à telle heure, tu finis à telle heure, etc. Sauf que quand tu n'as plus ça pour un très court moment, c'est très facile à gérer. Encore une fois, t'oublies les horaires. Mais pour moi, c'était très difficile quand j'avais un grand moment de latence, parce que déjà les vacances, j'aime pas ça. Je tourne en rond, je suis comme un lion en cage. Tu pourras demander à tous mes proches, ils deviennent fous quand ils sont avec moi, parce que je sais pas quoi faire, je sais pas m'occuper, parce que mes passions c'est être ici, ou à l'époque c'était le basket. Donc c'était un petit peu limité quand même. Et donc j'avais besoin de faire des choses. Ouais, mais je comptais l'oseille de Jérôme Pinault, et à un moment, ça s'est taré. La source s'est tarie, donc c'était beaucoup plus compliqué. Mais voilà, j'avais peu de passion, et donc les vacances, pour moi, c'était un calvaire, c'était plus une obligation qu'autre chose.
Tu appréhendais presque les vacances.
Mais il m'est arrivé exactement la même chose cette saison. J'ai eu une saison très intense avec la NBA, etc., entre RMC et beIN Sport pour qui je travaille. Et quand je me suis arrêté, j'étais ultra stressé. Je me suis dit, comment je vais m'occuper, comment je vais trouver des solutions.
J'étais boulimique de dire, ça y est, c'est les vacances. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire pour passer des bons moments?
Toi, t'avais plein d'idées pour t'occuper.
Moi, pas du tout. On pourrait se compléter.
Je pouvais pas rester à la plage. Par contre, tu me disais, on fait un resto de plage.
Ah non, moi, je suis pas non plus.
Toute la journée, avec des potes, avec les gens que j'aime, ma famille et autres. Mais moi, c'était mon kiff. C'était un vrai, vrai bonheur. Là, pour la première fois.
Moi, j'aime personne, donc déjà, c'est plus compliqué, tu vois. Oui.
Même maintenant, là, c'est la première fois depuis très longtemps que je prends 3 semaines de vacances. J'ai passé une première semaine avec des amis, mais c'était le kiff de dire, c'est pas grave, il est 10h15, on avait rendez-vous à 10h. Ouais, stop, lâcher prise, quoi.
Jérôme.
Comme toi, je suis très rigoureux sur les horaires, et là, j'en avais un peu rien à faire.
Ouais, c'est le moment de se lâcher. Jérôme, tu te lâchais aussi pendant les vacances?
Ouais, moi je me retrouve dans ce que disent les deux copains, parce que on a deux coupures en fait. Ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'à la suite du Tour de France, c'est pas les vacances, et que cette période-là, moi je faisais en sorte qu'elle soit la plus courte possible, sinon je pouvais me perdre. Parce que faut pas oublier que normalement, c'est le cas ce week-end, il y a une Coupe du Monde, ce qu'ils appellent Classica San Sébastien, et que si la petite semaine entre le Tour de France et la Classica, tu oublies ton vélo, remettre en route, c'est très difficile. Donc il faut pas oublier les impératifs, se lever, s'entraîner, s'obliger à garder une hygiène de vie et à les entraîner. Et puis après, c'est l'hiver, la coupure hivernale, et ça dure d'octobre à janvier, alors les premiers stages en décembre. Mais c'est là où moi j'avais un relâché total. J'avais pas la peur du vide comme je l'avais un peu en juillet-août, là où il fallait...
Oui, mais en juillet-août, c'est une coupure, c'est pas des vacances.
Ouais, mais c'est quand même dans un environnement où, tu sais, nous on pratique pas, on va pas au centre d'entraînement tous les jours. Il y a pas d'horaire, et c'est toi qui te la crée, c'est toi qui te crée la contrainte. Donc il faut t'obliger à aller t'entraîner, même si les copains sont là à la piscine, même si ils font l'apéro, toi tu le fais pas, etc. Et puis l'hiver, c'est différent. L'hiver, moi j'avais besoin de 4-5 jours pour vraiment me dire, ça y est, c'est bon. Effectivement, j'ai pas besoin d'y retourner, je peux lâcher, et je suis plus sportif de haut niveau. Et là, oui, je faisais tout ce qu'il fallait pas faire toute la saison. Donc on se lâche, on sort, on fait des bons restos, on boit l'apéro, on fume des clopes s'il faut, on fait tout ce qu'il faut pas faire, parce que
avec modération, évidemment.
Jérôme, évidemment, toujours cette sensation de se dire, là je suis plus sportif de haut niveau pendant quelques jours.
Bien sûr, elle est nécessaire. Moi, elle était nécessaire.
Tu vois, j'en ai le sourire aux lèvres.
Mais oui, mais ce qui est fou, c'est que quand je vous entends dire ça, on sent aussi toute la difficulté qu'est d'être un sportif de haut niveau, les contraintes aussi qui vont avec.
Mais c'est
le
plaisir aussi, Flora.
C'est ça, en fait.
On est un peu maso.
Et c'est exactement ce que j'allais dire. C'est qu'on sent votre ambiguïté là-dessus. C'est que vous êtes tenu, effectivement, entre les contraintes du quotidien qui sont malgré tout votre passion, ce qui est synonyme de votre passion, et en même temps ce besoin de souffler aussi parce que cette passion, elle est lourde.
Parce que tu sais, quand on parle des vacances, et puis un jour arrivent les grandes vacances, celles où en octobre, tu te dis, ça y est, c'est fini. La sensation du vide, du mal-être que tu éprouves quand, normalement, mi-novembre, tu recommences à aller à la salle, tu fais du footing, tu te prépares, tu vas rouler, tu te dis, demain, je rattaque quand ? Et là, tu ne rattaques plus, en fait. Et tu perds tous tes repères. Et l'hiver qui suit l'arrêt de la carrière, pas la retraite, mais l'arrière de la carrière, c'est vraiment très très difficile parce que t'as les mêmes sensations au départ qu'une coupure normale, hivernale, sauf que le redémarrage, il n'a pas lieu. Et là, c'est danger. Et là, psychologiquement, il faut être capable d'avoir des projets qui suivent parce que sinon, tu peux t'y perdre.
Ah ouais, mais le problème, c'est justement que moi, je suis devenu boulimique de projets. Parce que j'avais tellement
j'avais envie de faire un peu, je dis oui à tout.
Je ne sais pas dire.
Même si on dérive sur l'après carrière, moi j'ai été boulimique, même dangereux. Ils avaient peur que je passe un burn-out. C'est-à-dire que je suis allé passer mes diplômes d'entraîneur. Je travaillais pour une chaîne cryptée. J'entraînais les crabos du stade. Je bossais pour Andros. Je me suis rempli.
Presque plus occupé que.
Oui, je me suis rempli parce que j'avais peur de ce vide-là. Et ce vide, je l'ai eu quand les commentaires de match se sont arrêtés pendant un an. Où j'avais pas de vie médiatique, j'avais mon boulot, je suis très heureux où je travaille. Mais là, j'ai eu ce dont tu viens d'expliquer, Jérôme, c'est ce vide. Et ce vide, c'est dangereux. Je le dis bien, c'est dangereux.
Mais on appelle ça la petite mort, et c'est pas pour rien. Parce qu'en fait, on se rend pas compte. On est dans une routine, on s'entraîne tous les jours, etc. Sauf qu'on se rend pas compte qu'à un moment, quand on nous dit, c'est pas les vacances, c'est un petit peu plus que les vacances, et c'est pour le restant de ta vie, tu te rends compte que. Il faut combler ce vide et tu te rends compte surtout d'un truc qui est hyper triste. C'est que les sensations que tu as vécues comme sportif, tu vivras plus jamais.
Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est assisté sur toute notre vie sportive. On te dit, tu viens là à telle heure, tu t'habilles comme ça, tu fais ci, tu fais là, tu vas jouer là, tu vas pas jouer. On a plein de choses à ne pas réfléchir.
C'est encore pire. Moi, quand je me retrouvais en vacances, c'est-à-dire que, en fait, quand tu es joueur de basket, à l'étranger principalement, tu passes un coup de fil quand ton ampoule doit être changée. C'est-à-dire que je ne savais pas changer une ampoule.
Tu es assisté à ce point-là.
Ah oui, mais complètement. Moi je ne savais rien faire. C'est-à-dire que je passe un coup de fil, moi.
T'as un problème.
Sauf que quand les vacances arrivent, t'es plus lié à un club en principe. Bon, en tous les cas, tu peux être en négociation, tu peux avoir continué, mais il arrive que tu ne sois plus lié à un club. Et là, tu dis. Mais comment je dois faire? Par exemple, si ma tuyauterie est bouchée, je dois appeler qui? Je dois prendre un billet de train pour aller en vacances.
Administrativement, tout est. Si t'as besoin de, je dis n'importe quoi pour tes papiers côté administratif, le club t'aide, te met tout à disposition pour que tu n'aies qu'à penser à ta carrière de sportif et être efficace sur le terrain.
Il y a autre chose qui est très très difficile à gérer aussi, les copains, quand on est en vacances, par exemple, c'est de faire plaisir aux gens qu'on laisse à la maison toute l'année, famille, les amis, parce que. Moi, la première des choses que j'ai envie de faire quand la saison s'arrête, c'est rester chez moi, puisque je n'y suis jamais. On est parti 290 jours, 300 jours de l'année, on est parti dans les hôtels, dans les avions, dans les restos. On fait ça tous les jours. Et quand on s'arrête, nos femmes et nos enfants ont envie que d'une chose, c'est partir, prendre l'avion, faire une valise, aller à l'hôtel et manger au resto. Sauf que nous, on le fait toute l'année.
Jérôme, je vais aller dans ton sens. Tu vois, c'était ma première semaine de vacances, donc là, c'est vraiment du concret. Et donc, je pars avec mon épouse et mon petit garçon.
Dans une magnifique région.
Voilà, très bien. Et merci.
T'es venu à Limoges ?
Non, la Bolle. Magnifique. Jérôme m'a un super guide. Et bien, j'avais mon fils qui est très sollicitant, qui avait envie de faire des choses. Sauf que moi, j'étais en décalage.
Ouais.
Parce que moi, j'avais besoin de
repos.
De repos, de dormir, de rien, en gros, de rien faire. Et je sais que là, je pars de nouveau en vacances, mais ça va être beaucoup plus passer du temps avec lui, ainsi de suite. Et tu es dans cette phase où tu culpabilises parce que tu es pas avec ton fils, et tu dis, mais pour être avec lui, j'ai besoin d'avoir cette petite période. De retour au calme. Un peu, je sais qu'il m'écoute, il est dans la voiture.
Vous rappelez.
Je vais m'occuper de toi, mon
vous rappelez de cette pub pour la Loterie Nationale qui montrait quelqu'un qui descendaient en vacances quand tout le monde remontait. Mm-hmm. Et ben moi, quand je jouais à Malaga, je faisais exactement l'inverse. C'est-à-dire que tout le monde descendait vers Malaga, vers l'Espagne pour aller en vacances, et toi, moi, j'allais à Limoges.
Passer les vacances à Limoges.
Oui, mais en fait, pour moi, c'était des vraies vacances. Les vraies vacances commençaient quand je retrouvais mon chez-moi. Mais je comprends tout à fait ce que dit Jérôme.
C'est intéressant ce que dit Jérôme, parce que ce que tu nous dis aussi, c'est qu'il y a un moment, les vacances, on peut se dire que c'est le moment où tu vas enfin penser à toi et pour toi, et que tu es obligé aussi de prendre en compte les gens qui sont autour de toi.
Parce qu'eux, on fait ça toute l'année. Hein.
Bien sûr. Oui, parce que eux, ils le font. Non, mais je parle de sacrifice, mais forcément...
Tes enfants, ils ont calé leur vie sur tes compétitions, tes résultats, parce que t'es pas le même mec.
Ton humeur,
ouais. Ton humeur, bah, bien sûr.
Quand tu réussis, quand tu réussis pas. Et là, eux, ils ont besoin de toi. Moi, et toi, t'as pas forcément l'énergie ou le ressort de donner.
Moi, dans mes toutes premières années, c'était Paris-Tours, la dernière course, et on partait le lendemain. Et on a très vite compris, et surtout mon ex-épouse a très bien compris, que fallait pas faire ça, parce que les 4, 5, 6 jours qui suivaient l'arrêt de la saison, t'y es pas encore en vacances. T'as toute la décharge physique et de
mental
stress
aussi.
Et tu sais, on peut pas mieux comparer que là. Moi, je sors de 4 semaines fantastiques avec l'équipe sur le Tour de France, où c'est un vrai boulot et tu fatigues parce que tu vas d'étape en étape. Mmh. On vit en groupe. Je commence juste à reprendre reprendre le cours de notre vie avec ma compagne, avec le petit Lucien, avec ma fille Zoé qui est là, parce qu'on est parti, mais il faut bien 4-5 jours pour être en phase avec
une redescente.
En fait. Oui, mais là tu vois, là les vacances commencent et c'est pas du sacrifice, c'est de l'adaptation, c'est retour à la vie normale, on va dire. Et quand tu es athlète, c'est encore pire. Mais tu vois, j'ai connu des moments de sortie du Tour où tu n'as qu'une envie, c'est d'aller sur les critériums, parce qu'on va pas se mentir. Ce qui te manque aussi, c'est les gens qui t'idolâtrent, qui t'encouragent. Mmh. Tu rentres le lendemain, tu es plus personne, et quand tu finis un Tour de France, de plus être personne, faut être solide dans ta tête.
Et c'est dur de retrouver.
À l'intérieur, c'est pas très rugby, tu vois.
C'est dur de retrouver sa place à la maison aussi. Hein. C'est extrêmement dur de retrouver sa place à la maison. Parce que quand t'es en vacances, faut que tu participes aux tâches ménagères. Alors ce qui t'est pardonné entre guillemets pendant la saison. Ça t'est beaucoup moins pardonné pendant les vacances.
Vécu, là.
Mais c'est complètement logique. Ça t'est pardonné parce que tu fais des efforts physiques qui sont tellement intenses qu'on peut se dire ok, on fait toutes les choses. Sauf que la personne qui t'accompagne dans la vie, à un moment, elle a envie, elle aussi, de prendre un petit peu de recul, du repos. Et toi, tu travailles pas.
Elle a besoin aussi de vacances.
Donc en fait, je rejoins complètement Jérôme par rapport à ça. C'est ses vacances aussi, en fait.
Exactement.
Et donc tu dois t'adapter à ses besoins, trouver ta place à la maison, trouver où se trouvent les ustensiles. Ce qui n'est pas toujours très facile, ça m'arrive encore, mais voilà, trouver sa place, rééquilibrer le couple pendant les vacances, c'est pas évident.
Non, mais c'est pas simple. Par rapport à ce que disait Jérôme, moi cette année, j'avais vraiment besoin, c'est-à-dire que j'ai dit à ma famille, on part pas samedi matin, on part vendredi, du moins si on part samedi matin, mais à 5h du mat, j'ai besoin de tout couper, de partir très vite. Et je me suis rendu compte, que par rapport à ce que tu viens de dire, Fred, c'est il faut retrouver une place de papa, de d'animateur de la vie familiale, comment on fait les choses. Et sauf que là, quand tu étais en carrière et là encore, t'as envie de penser à toi et de souffler, quoi, de dire stop. Donc,
mais sauf que tu es protégé par ta famille quand tu es en activité, quand tu es en activité dans la saison, tu n'es plus protégé pendant les vacances.
Le totem
je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais moi, ça passe par des moments épicuriens.
Je vais te raconter une anecdote assez drôle. C'est que mon dernier tour avec le Quickstep, je suis parti 3 semaines en stage en altitude avant le tour. Donc ça veut dire que t'es parti 6 semaines. J'ai fait un stop à la maison pour 3 ou 4 jours pour repartir ensuite. Donc là, t'as tout perdu. Hein. Tu rentres au bout de 6 semaines, tu sais plus où sont les couteaux, les assiettes. Et la première fois qu'on repart se promener avec mon ex-épouse, je suis monté à côté passager dans la voiture. Et elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, oui, c'est vrai. C'est
ma caisse,
faut que je conduise. Parce que t'es tellement plus habitué, en fait. Tu montes à côté, on te conduit, on te guide, on te dit fais ça, tu vois. Le petit déj, c'est à telle heure, les gars, tout est déjà prêt. Et en fait, tu perds tellement tes repères que tu es dans une espèce d'habitude. Et je suis monté à côté parce que j'avais tellement l'habitude qu'on me conduise et il fallait pas conduire. Quand t'es coureur, tu conduis pas.
Bien sûr.
Je suis monté à côté.
Qu'est-ce que c'était bien, cette époque où on nous coucounait tout le temps.
C'était tellement bien.
On n'avait pas besoin de prendre les billets de train, on n'avait pas besoin de réfléchir pour les papiers, on avait besoin. Enfin,
C'était moi, elle était étonnée en rentrant. Elle m'a dit, mais ton sac est déjà fait. Je dis, ouais.
Je suis indépendant aujourd'hui.
Ça y est, je suis indépendant.
Moi, j'ai grandi.
Mais t'as dit quelque chose d'intéressant aussi.
Moi, je pense
aussi,
que ma compagne Valérie, elle est en train de nous écouter. Elle est en train de, et elle, quand elle va rentrer là, elle va me dire,
elle
en fait, t'as pas changé
notes.
Du coup. T'es toujours à tête.
Cédric, t'as dit quelque chose d'intéressant aussi. Ça t'arrive.
C'est la première fois de la journée.
Non, mais sur le côté aussi, être tranquille et être non reconnu aussi quand on est en vacances. Est-ce que c'était quelque chose que vous cherchiez aussi justement à couper avec les fans ou avec les supporters comme ça, de partir loin de là où tu joues au quotidien justement pour être un petit peu tranquille,
c'est passer un peu incognito. C'est un équilibre parce que tu as envie d'être peinard et qu'on ne t'embête pas, qu'on ne vienne pas te solliciter. Et quand ça arrive, tu dis, ah, c'est cool quand même, t'es content. C'est un doux équilibre. Moi, je sais que je partais souvent en Corse et en Espagne. Et là, la bol, tu vois, j'en fais la pub.
Oui, bien sûr. Il faut.
Et il n'y a pas de, oui, voilà, parce qu'il n'y a pas de culture rugby, même si ça m'est arrivé parce que, on m'a un peu reconnu sur certains, au golf surtout, voilà, on va dire. mais c'est un doux équilibre. C'est t'as envie qu'on te laisse tranquille pour pouvoir faire, je le dis bien, n'importe quoi. Mm-hmm. Qu'on ne dise pas, ah, t'es, on l'a reconnu, il a fait l'apéro, il a bien mangé, il a traîné, ainsi de suite. Et quand ça t'arrive, tu dis, ah ouais, c'est cool.
Moi c'est le contraire, j'ai toujours peur. Justement, je fais attention parce que j'anticipe, mais parfois ça m'a sauvé la vie. Hein. J'étais en vacances parfois dans le sud de la France, j'étais en voiture, j'avais fait un excès de vitesse, j'ai été arrêté par la police. Je me dis, ah, vous êtes Fred Weiss. Allez-y.
Et ça c'est aussi simple que ça finalement. Cool.
Ouais. Alors c'était il y a longtemps, maintenant je crois que je suis pas sûr que ce soit encore
ça
possible.
Mais ils vont dire, vous avez fait quoi comme sport? Vous avez fait du basket?
Vous êtes grand et costaud, vous avez fait du rugby, on me le dit parfois ça.
Non mais ils savent que t'as pas les oreilles et pas le mental, ils le savent de suite. Tu vas arriver, tu vas faire bababab, bonjour.
Tu sais quoi, sur le mental, je suis pas d'accord. Sur les oreilles, je suis très content de pas avoir vos oreilles.
Non mais il y a aussi, c'est vrai, il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, c'est moins possible pour les sportifs d'aujourd'hui, j'ai envie de dire, parce que les réseaux sociaux font que de toute façon, tout ce qu'ils font pendant les vacances,
ah oui, mais ça, ils le veulent, Florent. C'est un autre débat, parce que moi, à mon époque, nous, coureurs cyclistes, ça dure 15 jours la notoriété, à part les très grands, et dans notre coin. Alors évidemment, moi, dans mon village, tout le monde me connaît. À Nantes, pas mal de gens me reconnaissaient, mais c'est tout. Ça s'arrête là, coureurs cyclistes, c'est pas un sport où on te reconnaît dans la rue. Mmh. Aujourd'hui, c'est différent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gamins, moi, je leur disais, vous devez être exemplaire, puisque de toute façon, vous avez choisi de mettre ce que vous prenez au petit-déj jusqu'à ce que vous bouffez le soir à table, tout sur Instagram, votre vie, qui je suis avec qui, où je suis, quand. Donc, à partir de là, bah, t'assumes. T'assumes le fait qu'on va te reconnaître. Si tu cherches ça, tu peux pas dire, ouais, mais quand j'en ai pas envie, j'aimerais bien qu'on me laisse tranquille.
Entièrement d'accord avec toi.
Il n'y a pas de bouton on-off de la notoriété, malheureusement.
Si tu cherches ça, tu dis pas, je vais dans tel endroit.
Bah, si tu veux être tranquille.
Les mecs, ça fait deux jours qu'ils sont en vacances sur un très beau site. Ravi d'être
à la boule, par exemple.
Ravi d'être là. Mais ouais, mais t'étonnes pas. Si après, t'es un peu.
Après,
chassé,
c'est pas le cas de tous. Il y a des fois, c'est le cas de juste la notoriété fait que. Là, on parle des réseaux sociaux, mais c'était les paparazzi à l'époque. On a tous vu les photos de Kylian Mbappé en vacances.
Moi, j'ai été avec Tony Parker plusieurs fois quand il était à sa période Eva Longoria. C'était une galère absolue. Bah, alors que lui, à cette époque-là, justement, les réseaux sociaux, c'était pas aussi développé que maintenant. C'était quand même une galère absolue. Il ne pouvait pas faire 3 mètres sans être arrêté. Et j'avoue qu'en vacances, il me disait que parfois, c'était extrêmement pénible. Et c'était pas de son fait. Parce que lui, il avait choisi d'être basketteur, pas d'être star.
C'est une immense star, là.
Ben oui.
Je suis d'accord, mais
immense star, lui, immense star, sa compagne, ça faisait un combo un petit peu.
La combinaison des deux, mais on peut comprendre effectivement que.
Ouais, c'est ça. Si ça dépasse pas le côté star où les gens te reconnaissent, te saluent, ça peut être parfois même, comme tu dis, Cédric, gratifiant.
Bah oui, valorisant,
ça
bien
fait
sûr.
Plaisir à l'ego. Maintenant, il y a aussi quand c'est commence à être paparazzade
envahissant,
et suivi et envahissant. Et là, c'est plus drôle.
C'est sûr,
là,
si t'as un couple star.
Moi, j'ai connu ça avec Thomas Vauclair. À la fin, c'était relou, quoi. À la fin, c'était relou. Tu pouvais plus rien faire. Tu pouvais plus aller dans un endroit. Mais Fred, tu en parles. Quand on va avec toi à Limoges, et c'est pas une blague. Quand on est avec Fred à Limoges, c'est injouable, le truc. Enfin, les gens connaissent tous Fred et
c'est un village.
Il est pas très discret.
Après, il a du mal à passer inaperçu. Jérôme,
faire des petites soirées à Brive, tranquille.
Quoique là où tu m'as emmené à Brive, évidemment que tout le monde sait où a bouffé Cédric Clémence et avec qui, évidemment.
Personne ne peut passer inaperçu, finalement.
Surtout pas chez nous.
Allez, on va refermer la porte de ce vestiaire. Merci beaucoup, les GG, de vous être confiés. Il est 11h29 dans quelques instants. Fred va passer en mode capitaine, sans oublier évidemment les jeux du sport. Venez participer avec nous, on vous attend pour cela au 32-16. À tout de suite sur AMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Flora Moussi.
11h34 sur RMC, les grandes gueules du sport continuent jusqu'à midi. Les jeux du sport dans quelques instants avec un cadeau exceptionnel à gagner. On vous le rappelle, votre abonnement d'un an à Basic Fit. Pour cela, appelez-nous au 3216, envoyez sport SPORT au 7-32-16. Mais d'abord, Fred Weiss va passer en mode captain.
RMC, Captain Weiss met le brassard.
Rien ne va plus dans le basket français. Entre Monaco menacé de relégation par la DNCCG et l'ASVEL contrainte de revoir son budget à la baisse et donc de se séparer de ses joueurs stars, les monuments du basket français sont en difficulté. Mais tu veux rester malgré tout positif, Fred?
Oui, il faut rester positif et il faut pas s'enflammer comme on peut s'enflammer quand ça va bien. Il faut pas s'enflammer trop quand ça va mal non plus. Il faut se rappeler que l'année dernière, j'étais le premier à dire c'est magnifique, tout se passe bien. On a une équipe de Monaco qui a de l'argent. On a l'ASVEL qui commence à faire des choses, le Paris Basket qui travaille très bien également. On a Bourg-en-Bresse qui vient de gagner l'Eurocoupe. Tous les signaux étaient plutôt au vert. Et c'est vrai que là, on reçoit coup sur coup des annonces qui sont un petit peu compliquées quand même. D'un côté, on a Monaco effectivement qui apparemment est sauvé, mais qui va voir son budget divisé par 3, ce qui est quand même considérable. On avait quand même une équipe qui était capable d'aller au Final Four de l'Euroleague. L'Euroleague, c'est la meilleure compétition européenne en basket. On avait cette équipe qui était capable d'aller au Final Four, donc dans les meilleures équipes de l'Euroleague, qui va voir son budget divisé par 3, qui va arrêter l'Euroleague et qui va se reconcentrer sur la deuxième compétition européenne, qui est l'Eurocoupe. Donc c'est quelque part un déclassement pour cette équipe de Monaco. Ensuite, on a l'ASVEL qui, en début d'été, nous promettait monts et merveilles. Honnêtement, je me suis prêt à rêver.
Quand Tony
nous a annoncé, on va avoir plus de 50 millions d'euros de budget, on va avoir Sylvain Francisco,
qui
est considérable.
En budget en basket moyen.
Je pense que c'est entre 10. 7 et 8 millions à peu près. Je m'avance un petit peu, mais on a beaucoup d'équipes en tous les cas dans cette
fourchette-là.
Et quand Tony nous a annoncé ce budget, j'étais l'homme le plus heureux parce que je me suis dit, justement, on sait que Monaco, ça devient compliqué. On sait qu'ils ont des retards de paiement. On a besoin d'une locomotive, une énorme locomotive. 50 millions de budget, c'est du jamais vu. C'est fantastique. On se permet de voler des joueurs à des grands clubs européens. Et là, je commence à m'enflammer. Vous me connaissez, j'ai du mal à être dans la nuance. Je suis plutôt
soit
tout blanc ou soit tout noir. Ouais. Donc la nuance, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas vraiment. Et donc forcément, j'étais hyper chaud. Sauf que ce joueur, Sylvain Francisco, dont je viens de parler, qui était la recrue phare de cet ASVEL, finalement vient de signer au Panathinaikos. C'est-à-dire qu'en gros, il aura signé un mois uniquement à l'ASVEL. Il a signé le 30 juin. Le 30 juillet, il avait signé ailleurs. Et donc là, je commence à me poser des questions. Je vois Bourg-en-Bresse qui a gagné l'Eurocoupe l'année dernière, donc la deuxième division des compétitions européennes, refuser l'Euroleague parce que financièrement c'est compliqué. Je vois un club comme Le Portel, alors oui, moins fameux, en tout cas moins connu par le grand public, qui se retrouve rétrogradé en prénat, donc ça veut dire un niveau vraiment pas professionnel. Je m'inquiète forcément. Je me dis que ces locomotives, ces gens qui avaient la possibilité de nous faire progresser dans le basket, qui nous permettait d'avoir un budget énorme, se retirent ou sont en difficulté. Donc on commence à se poser des questions. Pour l'instant, le seul projet vraiment serein et fiable, c'est celui du Paris Basketball. Et ça, c'est quand même une très bonne chose dans la ville de Paris.
Qui sera en Euroleague,
oui. L'ASVEL sera normalement aussi en Euroleague avec un très beau budget de 24 millions. Mais quand on promet 50, Flora,
et quand
on te dit on n'en a que 24...
Ça vient d'où
finalement,
à Lyon.
Pardon ?
À Lyon. Pourquoi machine arrière totale ?
Alors apparemment, les investisseurs n'avaient pas les garanties suffisantes. Et c'est là que ça m'inquiète. Le basket
c'est
ne serait pas
financier,
assez...
en gros, du basket français.
Ce qui voudrait dire que le basket français ne serait pas assez bankable pour attirer ce genre d'investisseurs. Et donc forcément, j'ai une inquiétude. Quand je sais que le train de la NBA Europe ne va pas tarder à passer, je m'inquiète de voir les clubs français rester à quai.
T'as peur. Est-ce que moi j'ai une question assez simple sur ces coupes d'Europe que t'as évoquées aussi rapidement, l'Euroleague pour ne pas la nommer, qui est une ligue fermée, donc il faut être invité pour être dans cette compétition, si je dis pas de bêtises, et ça coûte aussi de l'argent à ces clubs français. Est-ce que finalement l'Euroleague c'est pas une mauvaise idée pour les clubs français quelque part?
On peut se poser la question, oui, parce que évidemment la plupart des clubs d'Euroleague sont soit affiliés à un club de foot et donc ont un budget quasiment illimité,
comme le Real Madrid.
Le Real Madrid, parce que c'est très important. Ou alors on a des équipes qui ont des mécènes, comme c'était le cas de Monaco, c'est ça le principal problème. Ces mécènes-là arrive à un moment où ils arrêtent de payer. De toute façon, tous les ans, il y a un déficit colossal parce qu'il n'y a pas de réalité économique à l'Euroleague, malheureusement. Mmh. Et donc, j'ai peur de me dire, finalement, Bourg-en-Bresse, c'est un pas en arrière en refusant l'Euroleague, mais est-ce que c'est pas le bon choix?
Et oui. Mais alors, si honnêtement, tu peux pas gérer financièrement.
Honnêtement, Bourg-en-Bresse est un club qui est extrêmement bien géré, et donc s'ils prennent ces décisions, c'est que ils ont étudié toutes les possibilités et qu'ils savent que la meilleure solution, c'est de ne pas faire l'Euroleague. Et c'est là que d'un côté ça m'inquiète, mais en même temps je me dis, il vaut mieux tenir que courir.
Oui, mais ça veut dire que le championnat n'intéresse personne, que le championnat d'Europe n'intéresse personne.
C'est ma problématique.
Et pas du tout bankable.
Le basket européen n'est pas bankable et ne vit que par des mécènes, donc m'inquiète forcément. Et le basket français n'est pas invité. Ouais. Parce que figurer en Euroleague, ça devient extrêmement compliqué, parce qu'encore une fois, les clubs sont prêts à perdre des millions. Et donc, de ce principe-là, je m'inquiète un peu. Encore une fois, la sérénité et la sécurité financière qu'assurent les clubs français, c'est quand même extrêmement intéressant. Je préfère me dire, on n'est pas invité à être dans le gratin du basket européen. Mais par contre, ce qu'on fait, on le fait bien et on perd pas d'argent. Et quelque part, ça me rassure aussi.
Voilà. Est-ce que la destinée pour le temporaire de ces grands clubs français n'est-il pas de rester là où il sait évoluer? C'est un peu de ce qu'on disait tout à l'heure dans le tennis. Est-ce que notre niveau n'est-il pas là? Tout simplement en faisant le rapport avec les équipes cyclistes, il y a un énorme problème lorsqu'on parle de championnat européen, c'est la fiscalité. Alors on parle de Monaco, donc là pour le coup c'est pas un exemple concret, mais la fiscalité dans le sport est un vrai sujet à prendre à bras le corps par nos politiques. On parle de concurrence internationale, de concurrence européenne, nous on parle de World Tour, et certaines équipes ont des charges et très bien, parce qu'on a de vrais contrats de travail. Nos joueurs et nos coureurs sont des salariés. Ils ont droit au chômage quand ça s'arrête. Ils ont une couverture sociale. Mais à côté de ça, c'est injouable. C'est-à-dire que quand il faut rajouter 20% du budget ou 30% pour payer les charges, on ne peut pas jouer avec l'Europe. Et ça, moi, je tire un grand coup de chapeau que Tony Parker se soit un peu avancé trop vite et finalement les investisseurs ne sont pas venus à la hauteur qu'il espérait. Oui, mais il a fait la démarche. Et moi, je le mets pas au pilori, parce que moi, j'ai fait ce genre de démarche d'aller chercher des ronds, et quand tu les trouves pas et quand tu dois dire on arrête, c'est toi le méchant.
Le problème de Tony Parker, et je te rejoins complètement, c'est qu'il a communiqué trop vite.
Oui, je sais.
Seule problématique, parce que tu vois un garçon comme ça, c'est exactement le point, c'est qu'il essaye de mettre le basket en avant,
qu'il essaye de trouver des financements,
il essaye avec son image.
Est-ce que Tony a gagné dans sa carrière, Fred? Il pourrait aussi dire, ah mais bon, j'ai profité de mon
désert,
et mes enfants, et mes petits-enfants, et mes arrière-petits-enfants. Mais
je suis complètement d'accord.
Et je pense qu'il peut être un des porte-étendards et un des porte-paroles pour aller voir les gens qui décident dans notre pays et les instances internationales en disant faut qu'on se mette autour de la table.
Tu changeras la fiscalité, tu ne seras pas au même niveau sur la ligne de départ.
La première ligne, pour faire un parallèle avec cette histoire de l'ASVEL, nous le parallèle, c'est les équipes commencent à discuter, de se dire le siège de l'UCI étant en Suisse, ayons tous un siège social et une fiscalité suisse. Mais et là, on pourra commencer à parler
sur un pied d'égalité.
Ce qu'on ne peut pas faire sur des clubs de basket ou des clubs de sport co qui sont basés dans des villes. Juste pour revenir à Tony Parker, où moi je rejoins plutôt ton discours. Je suis complètement d'accord avec toi. Sauf que, imagine les supporters à qui on annonce des joueurs de ce calibre, une ambition démesurée, une
capacité. C'est
extrêmement difficile à entendre.
Et des sponsors que tu allais chercher.
Mais bien sûr. Avec la promesse d'un sac majeur monstrueux, d'avoir des ambitions incroyables dans l'Euroleague, qui est quand même une compétition juste magnifique. C'est quand même difficile à entendre. Et donc, je comprends cette différence entre, d'un côté, moi, je pense qu'il a fait de son mieux et je peux pas le tirer à boulet rouge sur lui. Et de l'autre, vendre des promesses trop tôt et trop rapides à des supporters, c'est difficile
Quand il est en recherche de sponsors, faut bien qu'il vende un minima un peu de rêve, quand même.
Oui, d'accord, mais 59 millions. Beaucoup de
25,
un autre problème qu'on a évoqué aussi un petit peu cette semaine, Fred, c'est la fuite des talents aussi en France. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de jeunes joueurs qui partent pas seulement à l'étranger, parce qu'on parlait de l'Europe, mais principalement aux États-Unis pour jouer dans des universités américaines, avec là une manne financière que le basket français, avec laquelle le basket français ne peut pas lutter, tout simplement. Est-ce que c'est pas aussi là le problème principal du basket français, de perdre ces talents-là qui pourraient permettre au championnat d'évoluer encore plus?
Alors, c'est le problème du basket mondial, mais comme on disait, il y a les charges qui changent de tous les sports. Mais c'est vrai qu'on est en train de parler de joueurs qui jouent en deuxième division, qui vont se retrouver avec une possibilité de contrat d'un 1,5 million de dollars pour une saison en université. Donc même pas le niveau NBA, donc le meilleur niveau du monde. Non, l'université. Donc à partir de là, ça va devenir difficile de concurrencer. Ça peut freiner l'envie de former aussi en France. Moi, je suis plutôt très inquiet par rapport à
c'est la même, même chose dans tous les sports.
Le ministre des Sports, ou qui veut se dire, on a un sport universitaire, on a un sport scolaire, on crée des... Alors, usine à champions, ça va mal être interprété, pardon. Mais donnons les moyens à nos jeunes Français de rester en France, de faire leurs études, construisons des championnats intéressants chez les jeunes. Qu'on ne sera pas à faire
Cédric,
fait
on peut
les
pas.
États-Unis, on n'y arrivera pas.
Tu sais pourquoi on ne peut pas? Parce que les États-Unis ont trois choses que nous n'avons pas. Ils ont les infrastructures que nous n'aurons jamais. C'est-à-dire que les joueurs, quand ils vont jouer là-bas, ils ont des salles que même nos plus grands clubs européens n'ont pas. D'accord ? Des salles d'entraînement, des salles de musculation,
piscines. Et
on parle juste d'université américaine. Ils ont la faculté aussi d'avoir un double projet. C'est-à-dire que tu vas là-bas, tu reviens avec un diplôme américain, après 4 ans d'université.
Tous ne l'auront pas. En France, tu fais du sport, t'as un cancre. Donc tu ne peux pas faire des études.
Exactement. Et le troisième, c'est la manne financière. Ben oui, 1,5 million pour un joueur qui joue en deuxième division en France l'année dernière, c'est compliqué.
Vaste sujet sur lequel on aura. Tu vois, t'étais pas inspiré finalement. Le basket te parle, c'est
j'avais
la passion.
Sur notre groupe, j'avais mis des petites alertes sur sa capacité.
Regarde, t'es convaincu.
Ça fait vraiment plaisir.
Capitaine a rempli sa mission. Ouais. 11h46 sur AMC. J'espère que tu vas être aussi chaud dans quelques instants. Les jeux du sport arrivent. Pour gagner, on vous rappelle un abonnement à Basic Fit. Continuez de nous appeler au 3216 pour venir participer. À tout de suite dans les grandes gueules du sport.
RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Flora Moussi.
Il est 11h48, la dernière ligne droite des grandes gueules du sport. Ils sont chauds bouillants en plateau. Cédric Evrard, Jérôme Pinault, Fred Weiss et François Pinet qui nous a rejoint évidemment pour ces jeux du sport. Salut François.
Salut Flora, salut à tous. J'espère qu'il n'y aura pas de triche comme avec un certain Georges Quirino cette fois.
François, il pleure encore de la semaine dernière.
Mais il pleure aussi. Il pleure avec Routier.
Hein. Je suis désolé, c'est honteux.
Je ne suis pas responsable de ce qui se passe en plateau. Vous êtes prêts à jouer?
Je te fais confiance, Flora.
Allez, c'est parti.
RMC, les jeux du sport.
On va accueillir nos deux auditeurs du jour, Hamza et Luc. Salut messieurs.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On vous rappelle que le vainqueur repartira avec un abonnement d'un an à Basic Fit. Hamza, c'est toi qui as appelé en premier. Tu vas choisir ton équipe. Les équipes du jour sont Pino Pinet.
Ah ouais, c'est bon
super.
Ça.
Ah ouais,
les pipi flingueurs comme
ça
avec
Sarah Pinkowski,
ça marche bien.
C'est vrai que ça marche avec beaucoup de
gens. Il faut se réinventer là. Oh.
Et Cédric et Fred seront ensemble. Du coup, Hamza, je te laisse choisir soit Fred et Cédric, soit François et Jérôme.
François et Jérôme.
Bien.
Un homme de ambitieux.
Qui a choisi les deux blaireaux?
Hamza. Du coup, Luc, tu joueras avec Fred et Cédric. Allez, c'est parti pour la première question pour les GG. J'aime trop ces suspense là. Qui a terminé derrière Pauline Ferrand-Prévot lors du dernier Tour de France? Bonne réponse, François.
Yeah.
Pas si vite non plus.
T'as vu, j'ai même pas eu besoin de dégainer.
J'ai vu ça.
Là, t'as un bon porteur d'eau, là, Jérôme.
On va être que sur des questions à une seule réponse. On n'a pas le temps de lésiner. Donc, une seule réponse pour tout le monde.
Il faut que ça usine.
Exactement. Okay. Deuxième question pour les GG. Combien de Ligue des Champions Franco Baresi avait-il remporté avec l'AC Milan?
4. 3.
3.
Bonne réponse, Fred.
C'était 3.
C'était 3.
Ben oui, c'était 3, évidemment.
3,
il faut jouer avec nous.
Mais
il vient d'arriver,
dans les studios.
Non, il a les cigales derrière lui, il ne peut pas tout faire.
On entend qu'il est à Lille.
Question pour les auditeurs. Luc et Hamza, donnez-moi bien votre prénom quand vous répondez, que je sache qui a répondu en premier. Dans quel club vient de signer Maxence Lacroix? C'est trop dur pour vous.
Chelsea.
Ah, mais qui a répondu? Luc. Bonne réponse.
2-1 pour Limousin.
2-1 pour Fred, Cédric et Luc. Les GG, c'est à vous de prendre la main.
Combien de médailles a remporté Léon Marchand au dernier?
5.
Bonne réponse, Frédéric.
Allez, 4, c'est fait.
T'as de la chance que je demande pas qu'on attende la fin de la question.
C'est
moi qui fais les règles, en fait.
C'est moi qui prends un risque.
Tu ne les connais pas.
C'est moi qui prends un risque. T'aurais pu dire une compétition que je n'avais pas vue.
C'est vrai. Quatrième question pour les GG, toujours une seule réponse. Combien de titres de champion de France comptent les Girondins de Bordeaux?
5.
Si, c'est une bonne réponse.
Ils disent au pif, en fait. C'est que des questions au pif.
Attends,
on va dire un chiffre.
Allez, voilà. 600.
Non, tu vas où sans lumière? 4-1.
4-1 toujours. Question pour nos auditeurs, Luc et Hamza.
Allez, Hamza.
Allez, Luc.
À quelle place a terminé Paul Sexas sur le dernier Tour de France?
Le quatrième.
Luc, c'est une bonne réponse.
Bravo, Luc.
6.
Oh là 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 là.
5.
Ah, pardon.
On va passer à la question élimination. Je vous demande, les GG, s'il vous plaît, de me citer tous les champions olympiques français de natation en bassin. Ils sont 11.
Oh la vache.
J'ai l'impression que je vous ai scotché. Allez, François, on va démarrer par toi.
Léon Marchand.
Oui, c'est une bonne réponse. Fred.
Laure Manaudou.
Oui, évidemment. Bonne réponse. Cédric.
Le frère.
Qui s'appelle?
Ah, faut dire Laurent Manaudou.
Oui, bonne réponse.
Mais attends, pourquoi Cédric? C'est pas
Jérôme.
Logique.
Et tu commences pas.
Mais non, mais c'est on est deux fois de suite.
Jérôme.
Amaury Leveau.
Oui, c'est une bonne réponse. Je vous rappelle qu'effectivement, les relais comptent aussi. François.
Grousset.
Ah
non.
Ah,
il n'est pas champion olympique. Fred. Ça se complique, mais il y en a encore quelques-uns que vous pouvez trouver. Quand
j'en ai un.
Alain Bernard.
Bonne réponse, évidemment, Alain Bernard. Cédric.
Lacour.
Alors, non.
Camille
Lacour n'est pas champion olympique. Non.
Elle
doit savoir.
Non, champion du monde. On ne donne pas plusieurs réponses. Jérôme.
Allez, Jérôme.
Fred Bousquet.
Non, c'est une mauvaise réponse. Il ne reste plus que François.
Bah, j'ai gagné.
Ah, t'as perdu, c'est vrai.
Je suis le seul à avoir répondu sur ce tour.
Ah, mais il faut le dire.
Voilà.
Donc Fred a gagné. On valide ça?
Oui, bien sûr.
Bah, évidemment.
Est-ce que tu peux m'en donner un autre ou pas? Juste comme ça pour le plaisir.
Camille Buffat, par exemple.
Exactement. Mais évidemment, Camille Buffat, il y a Camille. Mais oui, il manquait Jean Boiteux, il manquait Fabien Gillot, Jérémy Stradius.
Gillot, ça a rapport avec la météo ou pas du tout?
Non.
Gillot, mais non, il est dans le fameux relais. Pardon.
Oui, c'est ça, c'est dans les relais. Tout ça, c'est
bêtise.
Bon, Jérôme, faut qu'on fasse quelque chose là.
On peut plus. La super question,
c'est quoi? C'est impossible. Il y a pas de question impossible.
C'est combien la section?
Tu veux qu'on l'invente à 6 points pour toi?
Tu veux qu'on le fasse?
Je sais pas.
En régie, est-ce qu'on tente une question impossible? Allez. Tu veux la faire impossible? Allez.
Tu vas, Jérôme, ou j'y vais?
Attends. La question impossible, même s'ils répondent, ils n'ont pas gagné.
Bah si.
Oui.
Ah ben non. Non, c'est 2 points.
C'est 2 points.
C'est plus 2 moins 1.
Allez, c'est pour le beau jeu. C'est pour le beau jeu. François ou Jérôme, qui veut y aller?
Ils peuvent finir à 0.
Jérôme, tu vas? Vas-y, Jérôme.
Vas-y.
Vous pouvez finir. Fanny.
Allez, Jérôme.
Pinot représente.
Combien de fois Raymond Poulidor est monté sur le podium du Tour de France?
C'est facile.
Dans le podium.
Le podium du Tour de France.
Oui,
mais bien sûr.
C'est facile, non?
Ah oui.
C'est pas facile.
Bah non, c'est pas facile.
8 fois.
Parce que, alors, mais tu penses que c'est
tu
facile,
m'as dit quoi?
8 fois.
C'est une bonne réponse.
Oui, voilà. On a gagné.
Non. C'est bien Luc qui remporte cet abonnement d'un an à Basic Fit. Tu vas pouvoir aller faire du sport pendant les vacances, Luc.
Luc, se fait plaisir.
Félicitations à toi. C'est grâce à Fred et Cédric aujourd'hui que tu repars avec ton abonnement. Merci les GG d'avoir été avec moi. Merci François d'être venu. Félicitations à Luc.
Jouez au jeu du sport sur RMC et gagnez un an d'abonnement dans le club Basic Fit de votre choix. Basic Fit, parrain du classement par équipe et partenaire fitness officiel du Tour de France 2026.
Merci à tous les GG d'avoir été avec moi ce matin. On vous retrouve évidemment demain. Merci Jérôme,
à vous, Flora.
De tes vacances bien méritées.
À tout à l'heure.
Effectivement, pour suivre la Classica San Sebastian, le Tour de France aussi à venir cet après-midi. Fred, je te retrouve évidemment demain en fait. Je sais pas pourquoi je pose la question.
Je suis là tout le temps.
Et tu es là ce soir aussi.
Je suis là ce
18h, 20h pour l'Intégral Sport. Jérôme est là demain aussi. Cédric, bonnes vacances toi.
Merci. Parfait.
Vous restez bien avec nous sur RMC. Les paris RMC à suivre dans quelques instants avec la Dream Team. Il est 11h55. À tout de suite.
Jusqu'à 13h.
Les paris RMC.